Renault, partenaire officiel de ce premier podcast de la Boucherie Ovalie.
Salaud !
Ta-ta-ta !
Nous, la Boucherie Ovalie, avons inventé le petit Guildford illustré.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Nous avons aussi inventé le site internet qui plante une semaine sur deux.
Boucherie Ovalie.
En revanche, nous n'avons pas inventé le podcast.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Nous l'avons réinventé.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Ohé, ohé.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 0 ou 1, je ne sais pas, du podcast de la Boucherie Ovalie.
Ouais.
Ambiance.
Ouais.
On est vraiment au taquet là. Donc bienvenue dans ce podcast. Comme vous avez remarqué, la Boucherie Ovalie est toujours à la pointe de la technologie et des médias en général, puisque nous lançons enfin notre podcast alors que ça fait 2 ans que tout le monde en fait un. Et on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un nous?
Ça fait 2 ans que tout le monde n'en fait plus.
Ça fait 2 ans, oui, c'est vrai. Et on s'est dit, peut-être qu'un jour on fera un site. On verra encore, c'est encore en discussion.
Dans 5 ans, on sera sur TikTok.
Exactement. Après MySpace, ouais. Tout le MySpace aussi. Donc je suis Copareos et je suis entouré de 2 merveilleuses personnes. La première, c'est l'homme qui insulte plus vite que l'ombre d'un supporter de Fédéral 3 en bord terrain. C'est Oval Masqué. Bonjour Oval Masqué.
Bonjour.
Alors, je ne sais pas si quand on va l'avoir monté, tu seras toujours plus sur Twitter. Est-ce que tu peux donner des nouvelles aux gens?
Je suis en vie.
Très bien.
N'oublie pas de te reconnecter.
Non, mais ça fait 10 ans qu'on se moque de ma voix, donc je suis très heureux de pouvoir enfin capitaliser sur mon plus grand talent. Mais je pense que les gens qui se moquent de ma voix, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ma gueule, en fait. Quand on sera sur TikTok.
Quand tu feras des challenges danse.
Le deuxième, ne vous étonnez pas si vous ne l'entendez plus un moment pendant le podcast, il sera juste en train de nous servir du café. C'est le stagiaire. Bonjour le stagiaire.
C'est moi. Bonjour.
Ça va?
Mais alors on s'appelle vraiment par les pseudos, pas par les...
Je sais pas.
Parce que ça va être dur.
C'est une discussion à avoir, c'est vrai. Moi, Copa, ça me va très bien.
Oui, mais plutôt on s'appelle déjà comme ça.
Oui. Et on a aussi donc celui qui a déjà été pris pour Damien Trail sur Twitter. Et pour cause, il s'y nomme Damien Trail. Cette blague n'est absolument pas audiophonique. C'est donc Damien Trail qui n'est pas avec nous autour de la table, mais qui interviendra pendant cet épisode d'une manière ou d'une autre.
Du coup, tu devrais dire Damien Tri peut-être.
Damien Tri. C'est important d'ailleurs le tri.
Oh putain.
Le sommaire, on va donc faire le bilan de la saison des clubs français à notre manière. Bien entendu, on va pas s'amuser à dire qui a été le meilleur club, le meilleur joueur, celui qui a le plus progressé. On en a rien à secouer du top 14. Voilà. Et de la Coupe d'Europe. Surtout de la Coupe
d'Europe. 3 matchs cette saison, je pense. Donc je suis tout à fait légitime pour
dire. Moi je supporte la SM. Donc c'est encore pire.
3 matchs, c'est 2 de plus que Sébastien Chabal. Donc a priori, pas de raison.
J'ai regardé tous ceux que j'ai chroniqués. Donc essentiellement les matchs de Toulouse. Puisque c'est ce qui fait cliquer.
Bah oui, voilà. Ensuite, on parlera un petit coup de la tournée d'été du 15 de France qui a eu lieu en ce début, qui a lieu en ce moment au Japon, et un peu plus globalement des tournées d'été en général. Et tout cela sera entrecoupé de jeux et autres chroniques. Parce qu'on aime s'amuser comme des petits foufous.
C'est vrai.
Boucherie Ovalie, Boucherie Ovalie.
Ohé, ohé.
On va commencer donc avec la saison des clubs français. Donc on va faire un petit tour de cette saison de nos clubs en top 14 et en Coupe d'Europe à travers diverses catégories. Pour chacune d'entre elles, je vous ai demandé en amont de cette émission de potasser un peu. Vous entendez le bruit de la feuille de Riwan qui est en train. Il a sorti vraiment 8 feuilles à 4. Hein, il est au taquet là.
Il a surligné,
des trucs.
En fait, il a surligné tout le texte.
Non, mais c'est les chutes de ma chronique en plus. Donc je lis et en fait, c'est pas drôle.
Le premier, c'était le club qu'il ne fallait surtout pas supporter cette saison. Et on va commencer par, par le stagiaire.
Ah oui.
Bastien, alors, vraiment, je ne sais pas comment je t'appelle.
Bah, peu importe. Mais
très bien.
Façon,
Bastien, le stagiaire.
Si tu me siffles, je réponds, tu sais, c'est le principe du personnage. Moi, j'ai mis le Racing. Voilà.
Pourquoi as-tu mis le Racing?
Bah, c'est une question, c'était pas spécialement lié à cette saison. Je pense qu'il faut pas supporter le Racing de manière générale. J'ai quand même fait des recherches parce que j'ai bossé un peu.
Le Racing a été fondé en 1800.
Tu sais, tu lis même les trucs qu'il y a sur Wikipédia, modifier le machin. Non, par contre, j'ai, sur Wikipédia, donc une source très sûre, ils mettent quand même qu'il y a 1630 clubs de rugby en France. Donc c'est quand même 1629 raisons de ne pas supporter le Racing.
Est-ce que 1600 clubs en France?
1630.
Putain, j'aurais dit plus. Ok, c'était une très bonne remarque. Merci du coup pour cette étude approfondie. On sent vraiment que tu as regardé beaucoup de matchs.
Le monsieur data, comment il s'appelait sur Canal, le mec qui faisait les stats
Je sais pas, mais
François Duboissé.
Ils se ressemblent un peu tous, en costard cravate, sorti de l'école de commerce.
Les années 90.
Je regarde plus. Jim Garrigue, non?
Non, dans les années 90. Monsieur Stat.
T'avais 3 ans.
Vous avez jamais regardé le Cal Rugby Club quand t'as Guillaume Garrigue, il essaie de sortir des stats et personne l'écoute et tout le monde se moque de lui et il dit ta gueule, t'es un nain et tout.
Exactement.
Et le pauvre a l'air de souffrir.
Et
personnellement, ça me divertit.
On va passer ensuite à Oval. Oval, selon toi, qui ne fallait-il surtout pas supporter cette saison?
Alors moi, j'ai mis le Stade français.
Mais pourquoi donc?
Bah déjà, ça tombe bien, parce que personne ne les supporte. Donc, voilà. Bah, je sais pas, bah, le Stade français, c'est toujours la même tristesse. Hein. Si t'as regardé des matchs un peu, c'était... Ils essaient de gagner à deux, donc t'as YCA et Makalu. Donc bah, les prochaines, il n'y en a plus qu'un, donc ça va être rigolo.
Il y a quand même Morgan Barra. De victoires par deux.
Putain, oui, j'avais oublié ça.
Il y a Morgan Barra qui
c'est la première fois de sa vie, il va porter un maillot Mbo.
Oui, c'est la première fois.
En fait, non.
Et surtout, après Bourgoin et Clermont, ça va être la première fois de sa vie où il va être dans une ville où les bars restent ouverts après 22h. Et ça, vrai. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour sa carrière?
Ah, lui, c'est surtout l'étape de poker. Donc.
Le Stade français, c'est un peu. En plus, à chaque fois que je regarde une feuille, enfin, une compo du Stade français, je me dis quand même, il y a du beau monde.
Bah, t'as 15 titulaires qui est à peu près potable, mais dès qu'il manque deux joueurs, le reste, c'est pourri. Bah,
puis t'as Sanchez, qui a laissé son talent en Argentine, puisqu'à chaque fois qu'il rejoue avec l'équipe d'Argentine, il le retrouve, donc je pense qu'il l'a laissé là-bas. Mais
faudrait qu'il puisse faire du télétravail depuis l'Argentine.
Pour moi, le club qu'il ne fallait surtout pas supporter cette saison, c'est l'Union Bordeaux-Bègles. Déjà, c'est l'équipe qui clairement aurait dû être championne en 2020 et je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Il y a un blocage. Je supporte clairement, donc je sais très bien ce que c'est un blocage mental et là, c'est fini. En plus, cette saison, ça tournait plutôt bien. Il y a eu ce gros trou d'air pendant la saison parce que forcément, quand t'es bon, bah, tu te fais prendre des joueurs en équipe de France. Une vieille élimination dégueulasse en 8e de finale contre La Rochelle. Une défaite contre Montpellier en demi. Et en plus, derrière, tu finis avec une grosse ambiance de merde dans le club. Vraiment, je sais pas du tout comment... Je pense que Urios, j'ai pas souvenir qu'à Castro Yona, il ait eu autant de... Enfin, vraiment une période compliquée comme ça au niveau du management.
C'est à l'époque où il faisait pas des cours de management. Parce que maintenant, je sais pas si t'as remarqué, mais dès qu'il prend la parole, il fait des slides et un PowerPoint. Donc ça devient vraiment un consultant.
C'est peut-être un peu trop monté à la tête.
Ouais. Là, il a fait le bilan de la fin de saison. Parce que, j'ai travaillé. Et il a fait une conférence de presse bilan de saison et genre il y avait un PowerPoint de 80 slides, tu vois, où il parlait de son management en disant là je me suis trompé, etc. Quoi.
Je pense qu'il court après Fabien Galthié, donc il essaye de le surpasser dans le côté Startup Nation, à mon avis. Non, mais justement, tu vois, tu dis que ça marchait bien à Oyonnax et à Castres, mais ce qui est facile là-bas, c'est qu'il n'y a pas d'ego, quoi, puisque la plus grosse star c'est Thomas Kumzu, donc forcément, il n'a pas un ego démesuré, je pense. Alors que Wookie et Gélibert, ça a l'air d'être un autre niveau, quoi.
Oui.
Ouais, peut-être qu'il a pas.
Après, avec la sortie qu'il a eue, ça aurait été vexant même pour une personne qui a pas trop d'ego. Il a quand même dit que c'était des cons et qu'ils étaient nuls, non, un peu.
On va parler maintenant de la deuxième catégorie, le club qui doit se bouffer les couilles après cette saison. Et je dois dire que, cher Oval, nous avons la même réponse. Donc je vais dire la mienne, puisqu'elle est certainement moins drôle que la tienne.
D'accord.
Très bien. Comme ça, au moins, c'est. Donc bon, pour moi et pour toi, c'est le Castres Olympique. Bah, pour moi, tout simplement, c'est parce que. Pour une fois, ils ont fini premier de la saison régulière et bah forcément, ils ne gagnent pas le titre derrière puisque en gros, s'ils ne partent pas de la sixième place, ils n'arrivent pas à remporter un bouclier de Brennus.
Alors c'est exactement ce que j'allais dire, mais en plus drôle.
Voilà. Donc maintenant, ça enfin, c'était le drôle, premier jet. Voilà, parce qu'il faut savoir à la boucherie que j'envoie des premiers jets qui sont ensuite retouchés par les autres. Donc vas-y, Riwan.
Non, mais j'allais dire la même chose. Mais même si on regarde la Coupe d'Europe, ils ont joué la Coupe d'Europe à fond.
Oui.
Ils ont failli battre le Munster et les Harlequins. Mmh. C'est d'ailleurs, je crois qu'il y a des polémique arbitrale, bon, qui n'intéresse que les castrés, donc on n'en a pas trop parlé.
Mais je me souviens que le crieur du village avait beaucoup parlé de ces polémiques arbitrales, lui.
C'est ça, donc je pense que c'était leur meilleure saison, et bah, au final, ils n'ont pas gagné de titre, donc c'est nul.
Et seule équipe qui a été invaincue à domicile de la saison.
C'est vrai.
Toujours, alors j'ai regardé les scores, c'est du 12-6, 16-5, c'est absolument des... Mais ils sont invaincus à domicile, voilà. Selon le stagiaire, tiens, allez, selon le stagiaire, c'est le RC Toulon.
Le Racing Club de Toulon, comme on l'appelle.
J'ai fait exprès de mettre RC parce que je savais très bien que quelqu'un allait rebondir derrière.
Non, ben en fait, moi je trouve que quitte, tu vois, à faire une remontée comme ça, c'est-à-dire qu'il faut un début de saison assez catastrophique.
Mmh.
Après, ils remontent, ils commencent à y croire, ils commencent à se dire que peut-être ils vont en finale de Coupe d'Europe, ils perdent déjà, c'est un peu décevant. Et final, tu finis 8e, je pense que t'as quand même moyen de te bouffer les couilles. Quitte à faire une saison comme, tu vois.
Oui.
Aussi décevante, autant avec le Stade français, au moins tu vois, t'as aucun espoir à aucun moment de la saison. T'es juste moyen, constant, dans la médiocrité, voilà. Tu vois.
10-12e place, ça
exactement.
Bouge pas.
Tu vises 9-10e, personne ne s'emballe trop, et au moins ta saison, tu vois, elle est bouclée, quoi.
Et surtout que Toulon, ils perdent pas mal de gens la saison. Bah, ils perdent Edzebet déjà. Paris C, il va peut-être partir pour une 54e saison, Paris C.
Je crois qu'il en fait une de plus.
Ouais. Une de plus, ouais, non, ils perdent Carbonel.
C'est Carbonel qui s'en va.
Et il y a Montpellier.
Et il y a West qui arrive.
Et Bello aussi, mais bon, Bello, de toute façon, lui, était plus dans les tribunes que sur les feuilles de match en fin de saison. Mais en effet, après, je crois qu'ils gardent. Bah, ils ont quand même un bel effectif. Franchement, Toulon, c'est.
Mais surtout, là, maintenant, ils ont Azema qui a l'air de faire un bon taf.
Après, il y a Azema et Mignoni, donc ça peut être rigolo aussi. Garbajosa, donc il va à Lyon à la place de Mignoni.
Oui, ça, oui. Et les joueurs n'étaient pas spécialement heureux de la nouvelle, d'ailleurs.
Pourquoi?
Je sais pas. Tu connais des joueurs de Lyon?
Non, mais c'était. Ça se savait. qui, ça les faisait chier qu'ils viennent. Mais...
Ah bon, mais je l'ai inventé.
Mais non, je l'ai pas inventé.
Mais pourquoi il est pas sympa,
Garbage. Ah, parce qu'il va piquer leur femme, c'est ça.
C'est,
ça. C'est, ça.
C'est mon idole de jeunesse, Garbage Joseph, pas le critiquer.
Je suis sûr que les. J'ai... Ouais, bon, ben, c'est dans ma tête alors. On va dire que c'est dans ma tête. Et ben, on va passer à la catégorie où on va souhaiter le chômage de personnel de club, puisqu'on arrive à la catégorie du club dont on espère la liquidation judiciaire. Toi, Oval, je vais te laisser dire pourquoi tu aimes le Biarritz Olympique.
Je suis en train de consulter mes notes et il y a écrit qu'il crève. Non, mais en gros, bah, c'est juste du Biarritz, quoi. Il y a 3 polémiques par semaine. T'as les clashs avec la mairie, avec les anciens, avec l'association, parce que l'eau, elle est froide dans la douche. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre, en fait, donc j'espère que ça va disparaître. Voilà.
Très bien. Selon le stagiaire, c'est le Castres Olympique. Mais pourquoi donc ?
Moi, tu vois, je suis dans une optique de business development. Je me mets à la place de la Ligue nationale de rugby. Le storytelling du petit Castres Olympique, le petit club de l'Aveyron, tu vois, qui vient titiller les gros, ça va 2 minutes, mais là, il commence un peu quand même à casser les couilles de tout le monde. À un moment, il est très ok, il a fait une belle saison, une belle demi-finale et tout, mais Benjamin Urdapilleta, ça peut pas être, tu vois, le fer de lance du rugby. On sera jamais, c'est le rêve de tous les rugbymen quand même de devenir comme le foot. On pourra jamais devenir comme le foot avec Benjamin.
Bah, regarde Wigan aujourd'hui, hein.
Oui, exactement. Voilà. Donnez-nous du Romain Tamac, donnez-nous du Lionel Boxis, des gravures de mode, tu vois. Des mecs qui ont un physique qui va faire un peu rêver la ménagère, etc. Non, enfin, tout ça pour dire qu'il faut bombarder le Castres Olympique.
Mais est-ce que t'as les coordonnées géographiques pour pouvoir les bombarder?
Non, mais je pense que c'est une mission pour Top Gun 3.
Pour moi, le club dont j'espère la liquidation judiciaire, c'est le MHR Montpellier. Parce que déjà, en France, on n'aime pas la réussite. Ils ont gagné et ça ne plaît pas. En plus, un millionnaire qui tient le club, donc ça ne me va pas du tout. De toute façon, une fois qu'Altrad sera en prison, ce ne sera plus qu'une question de jour. Et bien entendu, je suis absolument excédé par la communication du top 14 sur les réseaux sociaux après le titre.
Pourquoi ? Ah, parce que Enzo Forletta, tout
parce
ça.
Parce que quand il y a un mec qui jette d'un pont à Motoban en soirée d'après-match, ça chiale en disant oh, vous vous rendez compte quand même. Ils font des conneries, la drogue, l'alcool. Par contre, Enzo Forletta qui se défonce la santé, qui a perdu 10 ans d'espérance de vie, ça c'est rigolo parce que c'est quand même, il boit de l'alcool.
Ouais, mais c'est les valeurs du rugby, ça.
J'avais aussi mis un truc sur Enzo Forletta. Je pense qu'on déteste tous autour de cette table.
Oui,
en fait, on déteste les gens
probablement
les
très
fans de rugby.
Non,
adorent.
En fait. C'est pas Enzo Forletta, il a le droit de s'amuser. En vrai, il a gagné un titre, ça nous arrivera jamais. Très bien, moi j'aurais été peut-être dans le même état que lui, mais c'est juste, en fait, c'est la communication.
Mais il y a une polémique là-dessus. En Angleterre, je sais pas si vous vous souvenez d'Hugo Monnier, joueur qui est un très bel homme maintenant, qui est un hipster, qui porte des écharpes et des lunettes.
Qui a dit qu'il fallait arrêter avec la culture de l'alcool.
Ouais, de la troisième mi-temps, où il a la culture des. Comment il disait ça, des lads, bon, des bros, quoi,
des
beaufs, quoi, voilà.
Enfin voilà, je comprends pas pourquoi les comptes officiels. Là-dessus. Et aussi, dernière raison, Moed Altrad a absolument rien à foutre sur une photo de levée de bouclier de Brennus. Je suis peut-être très.
Cela dit, on a fait une bonne partie de notre succès avec un jeu qui s'appelle le Guildford Illustré.
Oui, bien sûr.
Qui tourne en dérision quelqu'un qui est probablement vraiment malade.
Mais est-ce qu'on est un compte officiel d'une compétition ?
Ah là, mais toi, t'es.
Mais moi, je suis comme ça, moi. Toi, ici, ouais, je suis très.
Les règles,
des cases,
communication des... institutionnelle, faut pas
exactement.
Que ça dépasse, quoi.
On va passer ensuite à la 4e catégorie, le club dont on a déjà oublié sa saison tellement elle était chiante. Et on va rester sur le MHR, puisque selon toi, Oval, c'est Montpellier.
Bah oui, parce que pour moi, ils ont été champions de France et tout le monde l'a déjà oublié, je pense. D'ailleurs, là. On parle que d'Enzo Forletta, oui. Quoi. C'est lui la mascotte du club.
J'ai mis le club dont on a déjà oublié sa saison tellement elle était chiante. J'ai mis Clermont. C'est vraiment la saison la plus chiante du monde. Il n'y a absolument aucun projet, aucun plan de jeu. On se fait chier. Il n'y a que des victoires à domicile, que des défaites à l'extérieur, globalement. De toute façon, tant que tu prends un ancien cadre de Michelin pour diriger un club de rugby...
Et comment tu vas réagir quand Damien Penaud va aller au Racing? Parce que c'est obligé.
Je m'y prépare déjà. Je m'y prépare gentiment, mais en même temps, j'en suis à un stade où je le comprends. Si tu veux gagner des trucs, gars, casse-toi, quoi. Et voilà, non, mais il y a vraiment aucune dynamique.
Damien Penaud, ce qu'il veut gagner, c'est des parties de Fortnite, surtout, non?
Oui,
j'en ai. Il s'en fout un peu.
Et du coup, il pourra jouer sur l'écran géant du hangar.
C'est ça.
Il sera trop bien, il fera des live Twitch. Ce sera trop bien. Et enfin, finir avec le stagiaire qui nous parle de la section paloise. C'est vrai que j'avais oublié que j'étais en top 14.
Bah, moi aussi. Et c'est pour ça que je les ai mis là, clairement. Je pense pas qu'il existe un club plus neutre et plus centriste. C'est pas pour rien qu'ils ont élu François Bayrou pendant des années. Vraiment une indifférence la plus totale pour la section paloise.
Quand ils gagnent, généralement, en plus ils gagnent de. Enfin,
ouais,
tu vois,
à la limite,
propre, mais après,
dans le genre neutre, saison un peu. Il y a le Stade français, mais le Stade français, de temps en temps, il y a un petit truc. Soit ils prennent une grosse branlée, soit ils font un exploit que personne n'attend, tu vois. Alors que vraiment, Pau.
Puis ils jouent jamais, ils ont jamais été en danger.
Non.
Mais ils ont jamais été spécialement en course pour le top 6.
Non,
c'est
vraiment.
Vrai que...
c'est...
D'ailleurs, je sais que c'est toi spécialiste des jeux, mais je vous propose un petit jeu.
Oh.
Citer un joueur de la section paloise, sauf Antoine Arteuil.
Ah si, il y a le Clovis Le Bay.
Ah, bien joué.
Bam.
Est-ce qu'il a une sélection, lui? Il a été retenu?
Il y a moyen qu'il ait été retenu pour une tournée d'été. Ouais. Quand il manquait trop de monde. Je pense qu'on peut passer au club de la dernière catégorie, le club de la saison. Bien entendu, pas pour ses résultats, mais selon les critères de chacun d'entre nous, les critères un peu de la boucherie. On va rester avec le stagiaire qui a mis Biarritz.
Ouais, bah pour toutes les raisons qu'a cité Rewan tout à l'heure sur pourquoi il faut supprimer ce club, moi je suis plutôt partant de le garder, puisqu'ils prennent des branlées tous les week-ends, donc on voit des essais quand même. Il y a des embrouilles effectivement entre le club, la mairie, les anciens. Ouais, je sais. Et puis quand même le financeur principal, c'est le soutien d'Éric Zemmour. Donc clairement, il est question de tout sauf de rugby. Donc moi, ça me plaît plutôt, puisque clairement, je regarde plus de rugby depuis 2 ans. Donc moi, c'est le club de la saison pour moi.
Puis même, on peut inclure quand même ce magnifique barrage contre Bayonne qui a fini au tir au but.
C'était il y a un an.
En fin de saison dernière, on peut l'inclure. Tu le mets, c'était le dernier match de saison dernière.
Et puis le titre de 2005 aussi, putain, c'était bien.
On va passer maintenant à moi, parce que je garde le meilleur pour la fin. Selon moi, le club de la saison, c'est le Stade Toulousain, parce que c'est le meilleur club du monde, avec le meilleur joueur du monde, et pourtant, il a perdu contre son voisin paysan en demi-finale de top 14, et même La Rochelle a réussi à gagner un trophée cette saison, c'est dire à quel point c'est le club de la saison, le Stade Toulousain. On a donc aussi pour le club de la saison, pour Oval, le Racing Club Toulon.
C'est ça. Donc le Racing Club de Toulon, donc après le départ de Mourad Boudjial, je pense qu'on se disait tous que Toulon c'était fini, quoi, qu'on rigolerait plus comme avant. Et en fait, bah, Toulon c'est impossible de s'ennuyer, il se passe toujours des choses. Même Bernard Lemaitre, on se disait il a peu de charisme, il a 10 000 ans, il va crever.
C'est un commercial en Vélux, hein, oui.
Mais quand même cette saison, il a traité Ben Hedved de gros fragile.
C'est quand même le mec le plus courageux.
Personnellement, j'aurais jamais osé ça. Bon, bah, il y a eu aussi le gros Colazo qui a fini par se faire virer. Il y a eu le drama Carbonel avec tous les nez qui ont fait des pétitions. Ce qui se foutait de vos gueules, là, au Clermont-Trois, avec les pétitions, et ils en ont fait une.
Même résultat. C'est du trou.
Je rappelle que personne n'a jamais réussi quoi que ce soit avec une pétition.
Non. Dans n'importe quel.
Je crois qu'il y a une guerre qui a été arrêtée.
Parce que l'Ukraine, on en est à quoi 3000 signatures, mais non.
Donc il y a Mignoni qui arrive l'année prochaine, donc il y a moyen qu'on s'amuse un peu avec Azema et tout, parce que ça a quand même l'air d'être deux têtes de con. Il y a West qui arrive, donc ça c'est...
Je sens que tu vas prendre un abonnement à Toulon, et un abonnement TGV aussi, Paris-Toulon.
C'est la résurrection de Rémi Ropez, tu vois, donc j'ai hâte de voir ça. Donc ouais, Toulon, toujours divertissant. En plus, ils ont fait une belle fin de saison, enfin... on s'amuse toujours avec Toulon.
Très bien, merci pour cette belle conclusion du bilan de la saison de Top 14. Et maintenant, on va faire un petit jeu rapide. Puisque je vais vous poser des questions sur la saison de Top 14 2021-2022.
Et merde.
Et vous allez répondre. Quel club s'est pris la plus grosse branlée de la saison?
Biarritz.
Biarritz.
Donc, le Stade français, ça?
Alors, c'est la deuxième question. Contre qui? C'est pas le Stade français.
C'est pas...
À Toulouse.
Toulouse, en dernière journée, là? 88? 80 points?
80 à 7, ouais.
Bon, c'est que le Stade français n'a fait que 70, je crois.
Oui, mais il y a eu quand même des grosses branlées sur Biarritz, en effet. La réponse à la première question était assez claire. La deuxième, c'était contre Toulouse, 87, où il y a même... Putain, c'est qui a tapé une transformation?
Ah bah, Técori.
Técori qui a tapé une transformation.
En coin, en plus, je crois, il l'a mis.
Ouais. Bah ouais, en coin, ouais, franchement. Je vais vous demander maintenant de me citer des clubs... un des 5 clubs qui a été en tête du championnat au terme d'une journée cette saison. Il y a 5 clubs qui ont été en tête du championnat.
Bah, Castres.
Castres, à la dernière journée.
L'UBB, pendant un moment.
L'UBB de la en journée 9, à la fin de la 9e journée et de la 12e à la 20e journée.
La première journée, c'est un truc à la con. Toulouse, le Stade français.
C'est un truc à la con, la première journée, en effet, mais c'est pas le Stade français. Toulouse, en effet, de la 2e à la 8e journée et de la 10e à la 11e journée.
Montpellier, ils ont bien dû être un peu.
Montpellier, de la 21e à la 25e.
Et donc le premier.
Et donc la première.
Perpignan.
Non, justement, c'est l'équipe qui a battu Perpignan avec bonus offensif, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée leader de Top 14. Une équipe dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission.
Ah, le Loup ?
Non.
Brive ?
Oui, Brive. Ah. C'est Brive qui a été leader de la première journée après avoir battu avec bonus offensif Perpignan. Quelle est la particularité du résultat du barrage d'accession au Top 14 de cette saison 2021-2022 ?
Quelle est la particularité ?
La particularité du barrage d'accession au Top 14, qui est opposant donc le finaliste de Pro D2 au 13e Top 14.
Et Biarritz.
Non, et Perpignan.
Et Perpignan, pardon, oui, Biarritz.
Il y a une particularité par rapport aux autres.
C'est la première fois qu'un club de Top 14 gagne.
C'est la première fois que le club de Top 14 arrive à se maintenir, en effet. Sinon, à chaque fois, c'était le club de Pro D2 qui montait. Donc, pour la première fois, on aura un seul nouveau club cette saison. Ce club qui est...
Bayonne.
Comme d'hab. C'est chiant, putain. Et enfin, dans quel club le meilleur marqueur et le meilleur réalisateur de la saison de Top 14 sont-ils coéquipiers? Le meilleur marqueur et meilleur réalisateur, c'est deux joueurs qui jouent dans le même club.
Meilleur marqueur d'essai ou meilleur marqueur de
points ? Meilleur marqueur d'essai et meilleur réalisateur, donc meilleur marqueur de points.
D'accord.
C'est pas Couillou et Berdeux, un truc
c'est
comme ça.
C'est Couillou et Berdeux, en effet, qui jouent à, du coup,
à Lyon.
À Lyon.
Léo Berdeux, d'ailleurs, c'est très bon joueur, point, sans aucun charisme.
C'est dire à quel
parce
point.
Que Couillou, c'est pas un des joueurs les plus maudits aussi, parce que le mec est quand même très fort, il est tombé en même temps. Tu vois, il a fallu qu'il naisse en même temps qu'Antoine Dupont, quand même.
Après, déjà, il arrive pas à passer devant Maxime Lucu.
On va refermer ce chapitre, donc sur le bilan de la saison, et on va passer à la chronique que nous a.
Oula.
Que nous a fait Damien Traille. Alors préparez-vous, les enfants.
Bonjour Yovali, bonjour Yovali.
Ohé, ohé.
Bonjour à tous, je suis Damien Traille, TRY. Et contrairement à mes petits amis, j'ai la chance de ne pas être parisien, ce qui explique pourquoi je ne suis pas parmi eux, mais je m'adresse à vous par chronique. Aujourd'hui, pour cette première, je vais vous parler de la révélation du rugby français de la saison 2021-2022. C'était pas facile de passer après Antoine Dupont, couronné meilleur joueur du monde la saison passée, mais je crois que le défi est relevé, dans un style un peu différent, certes. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Baptiste Pasanti.
C'est sûr.
Enfin, Baptiste Pesanti, le joueur de rugby. Eh bien, Baptiste Pasanti, le compte @pesanti-64, qui sévit sur Twitter. Ce qui devait être à la base un compte fan du second ligne palois a, probablement en raison du manque d'actualité du joueur concerné, petit à petit mué vers un compte haineux à l'égard du Castres Olympique. Alors certes, normalement, je ne cautionne pas les incitations à la haine. Mais bon, là, ce sont des castrés, donc ça va. Et comme dit l'intéressé, de toute façon, ils n'ont pas internet, ils ne sont pas au courant. Et puis surtout, c'est drôle. Les injures sont plutôt râlées pâquerettes et tournent souvent autour du caca. Mais sont toujours formulées de façon originale. On relèvera par exemple les sales tracteurs sans huile ou le fameux apiculteur qui est devenu un mème. Non. Une question demeure. Baptiste est-il un personnage, un rôle créé pour s'amuser ? Voire un compte secondaire pour un utilisateur qui n'a pas envie de salir sa réputation avec une ligne éditoriale difficilement assumable ? Je n'en suis pas certain. Je ne pense pas que ce soit 100% du premier degré. Déjà par exemple, parce qu'en un an, l'orthographe a clairement régressé, ce qui ajoute au charme du compte. Mais l'évolution du contenu me fait croire que caché derrière son écran, il y a une personne bien réelle qui pense un minimum ce qu'elle écrit, le formulant de cette façon pour rigoler. Et je trouve ça formidable. Car ouvrir sa gueule et en laisser sortir les sentiments les plus veules est devenu rareté. Nous vivons désormais dans un monde du rugby aseptisé. On ne peut plus rien dire et la moindre menace de mort, le plus banal appel au suicide, vous vaut quelques heures sur la touche du réseau social. Certains dans cette émission pourront en témoigner. La bienveillance règne en maîtresse, les généraux ont été remplacés par des combats de sourire et Vincent Clerc déballe des éléments de langage fadas à la mi-temps des matchs de rugby. Et tout ça, comme le dit très bien Baptiste, ça dégoûte.
Merci beaucoup Damien pour cette magnifique chronique. Bravo.
Bravo Damien.
On peut l'applaudir et ça confirme bien entendu que c'est lui, Baptiste Pasanti.
C'est sûr, mais je pense que Edoui Plenel est sur le coup là parce que le mystère devient trop important.
Avant que ce soit toi finalement, c'est peut-être ton compte secondaire, on va le masquer.
Je suis Edoui Plenel, oui.
Merci donc pour cette magnifique chronique de Damien que on espère avoir un jour autour de la table s'il veut bien nous rejoindre dans notre ville dégueulasse qui est Paris.
S'il y a un numéro 2 surtout.
Et c'est un numéro. Après, tu sais,
c'est un numéro 1 même.
Si on les publie pas, on peut continuer à faire ça pour nous, pour s'amuser. Hein,
du coup, on peut peut-être enlever les micros, par
contre. Oui, c'est ça, voilà, on fait une soirée, quoi. On va passer maintenant au deuxième grand sujet de cet épisode, la tournée d'été du 15 de France.
Bonjour Yovali, bonjour Yovali.
Ohé, ohé.
On va tout d'abord revenir sur le Japon-France du week-end dernier et sur, bien entendu, le reste de la tournée qui est juste un autre match. Je crois contre le Japon, il n'y a que deux matchs. Et je crois que nous avons un petit monsieur. Bonjour, comment t'appelles-tu?
Oval.
Oh, et tu nous as écrit un petit quelque chose sur le frangin.
Je t'avais dit de pas faire ça. Oui, non, mais demande d'abord à Bastien.
Bonjour Bastien. Bastien, ça va être très rapide.
J'ai pas préparé.
Est-ce que tu as vu le match?
Je l'ai vu.
Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Et parce que je savais qu'on allait tourner ce truc, du coup, je me suis forcé.
Ah putain, parce que moi vraiment, je me suis dit, rien à foutre.
Tu t'es levé ou t'as fait
Écoute, si tu veux que je résume mon match, je pense que j'ai vécu le même match que les Japonais. Je me suis levé, j'ai dormi pendant un quart d'heure, donc j'ai tout raté le premier quart d'heure. Après, je me suis un peu réveillé, tu vois, pendant 30 minutes, histoire de dire quand même, concentre-toi, essaye de pas être trop ridicule. Et puis après, en deuxième mi-temps, j'ai lâché l'affaire parce que vraiment, ça me faisait chier.
D'accord.
Donc j'ai laissé le 15 de France dérouler. Dans la différence la plus totale.
Très bien. Moi, clairement, je n'ai absolument rien à secouer du 15 de France, donc j'allais pas me lever un matin. Voilà, je suis
un peu anti-français.
Je suis plus comment on appelle ça, un clubiste,
un clubard,
qu'un nationaliste.
Nationaliste.
Non, mais en gros, j'en ai rien à foutre de l'équipe de France. C'est pas le fait de supporter.
T'as pas vibré pour le Grand Chelem.
J'ai trouvé les matchs très beaux. mais j'ai pas sauté de joie quand la France a gagné Grand Chelem, principalement parce que j'ai vu Fabien Galthié exulter. Non, mais c'est juste que je n'apprécie pas Galthié et j'apprécie encore moins la couverture médiatique sur Galthié.
Mais ça, je peux comprendre.
Alors que clairement, c'est principalement Sean Edwards, notamment, mais surtout tout le staff du 15 de France qui fait que l'équipe de France est forte.
Jeff Dubois.
Et pas Galthié qui.
Jeff Dubois.
J'aime pas. Voilà, c'est
qu'est-ce
tout.
Qu'il
et
a
juste, et j'aime pas le côté de. Je rejoins Grub, le Grub là-dessus.
Le Grub,
tu vas voir un match
ça,
du 15 de France. Ouais. C'est un putain de rassemblement UMP avec 50 000 drapeaux de la France dans les tribunes.
Oh là là, c'est parti.
UMP.
Donc, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce match, Riwan?
Les tournées d'été en fin de saison comme ça sans les principaux titulaires, bon, ça a assez peu d'intérêt quand même. Mais quand même, il y a un intérêt, c'est. Enfin, moi, ouais, déjà, je fais une répétition, c'est génial.
C'était un premier G, hein.
Bah, c'est de découvrir des nouveaux joueurs. Donc, moi, par exemple, j'ai découvert Yohan Tanga.
Oui.
Si vous connaissez.
C'est pas un nom de sous-vêtement d'ailleurs, le Tanga.
Si.
Si, okay.
C'est la blague que j'ai été promis de pas faire.
C'est une île aussi, les îles Tanga.
Il m'avait déjà tapé dans l'œil dans le match Barbarians-Angleterre.
Ah oui, mais c'était une semaine.
Oui,
ça.
Bien sûr. Enfin, oui.
C'était très drôle. Hein. C'était 14 mecs qui jouent au beach rugby et qui ont traversé l'Angleterre. Quoi. C'était incroyable.
Et la gueule d'Eddie Jones.
Donc, je connaissais le joueur de nom, mais j'avais jamais vu ses matchs hein, parce que forcément, il joue à Agen et au Racing.
Et la petite gorgée au milieu de la
donc,
route.
Donc, au-delà du fait que c'est un très bon joueur, j'ai lu quelques articles à son sujet.
Oui.
Et j'ai appris des choses passionnantes. Donc, déjà, il est né à Bondy, à côté de chez moi. Alors, ça peut paraître futile, mais bon, c'est quand même important pour moi, parce que quand t'es Gersois, évidemment, t'as de la moitié du 15 de France qui est comme voisin, tu vois.
Oui.
Mais quand t'es de Seine-Saint-Denis, c'est un petit peu plus rare. Et donc, apparemment aussi, c'est un très bon joueur de piano. Alors ça c'est un domaine que je laisse à Bastien, c'est
oui.
Notre expert musique.
Oui.
Donc si tu vois une vidéo, tu nous diras s'il
d'accord.
Est vraiment si bon que ça, je sais pas.
On peut en trouver une. Hein.
Donc toi t'es expert musique, moi je suis expert violence. Donc j'ai été heureux d'apprendre que Tanga était le fils d'un célèbre catcheur professionnel congolais.
Le catch congolais, il y a une série Netflix non où ils en parlaient du catch congolais. C'est pas ça, ils jettent des sorts.
Oui,
et tout en même
oui,
temps.
Oui. Ben, il y a beaucoup de catch congolais sur YouTube, vous pouvez regarder ça gratuitement et c'est fantastique, au sens premier du terme. Parce qu'il y a du vaudou, il y a des sacrifices d'animaux, vraiment, des poulets tués sur le ring. Il y a des gars qui jettent des sorts et tout, enfin, à côté, la WWE, c'est un film d'auteur, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si Tanga a hérité de certains des pouvoirs de son père, mais s'il veut être sûr d'être à la prochaine Coupe du Monde, ça peut être une piste. Par exemple, il pourrait prendre le contrôle de Bernard Laporte et lui faire faire tout ce qu'il veut.
Un petit peu, genre comme, un
petit
honnête.
Peu comme Moed Altrad, mais sans payer. Quoi.
Merci, bravo. J'ai une vidéo de Yohan Tanguin en train de jouer au piano dans une gare.
Ah.
Voilà, donc. Alors, c'est écrit Steve Wonder Made in Congo, alors qu'il joue du.
Bah oui, c'est Vanessa Carlton.
C'est Vanessa Carlton. Voilà, c'était. C'était la vidéo. Je m'attendais pas à me dire aussi quoi.
Ça avait l'air bien joué. Hein.
Ça avait l'air pas mal. Mais alors, normalement, dans le clip de Vanessa Carlton, le piano se déplace. Donc il aurait fallu qu'il y ait des coéquipiers qui portent le piano pendant
sur,
qu'il joue.
Sur la rame TGV. Merci beaucoup, Riwan. On va parler un peu de cette tournée d'été. À quoi sert cette putain de tournée d'été ?
À m'empêcher de partir en vacances.
Très bien. Non, ça c'est ton salaire qui t'empêche de partir en vacances. C'est pas du tout la tournée d'été. Donc, à quoi ça sert ? Quel est votre avis, le stagiaire ? Quel est ton avis sur la tournée d'été ?
Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que la tournée d'été c'est surtout en fait une contrepartie pour que les équipes viennent aussi au mois de novembre et pour qu'on puisse remplir le Stade de France trois fois. Enfin, ça dépend qui on joue. Si on joue le Japon, on va pas remplir le Stade de France trois fois. Mais...
Oui, parce qu'il faut rappeler que les équipes d'hémisphère sud au mois de novembre c'est leur fin de saison, donc c'est l'équivalent
c'est
de nos tournées d'été.
De ce que j'ai compris, après j'y connais rien en rugby, mais de ce que j'ai compris en fait, à un moment ils voulaient un peu supprimer la tournée d'été. Les équipes d'hémisphère sud ont dit bah en fait du coup on vient plus. Et puis du coup la fédération française a dit bah du coup on a plus d'argent en novembre donc c'est pas possible. Donc c'est un peu ça. Mais par contre, on pourrait quand même négocier des trucs. Déjà, par exemple, que les matchs aient lieu à nos horaires. Parce que clairement, me lever à 9h, c'est chiant. Ou alors, on fait des matchs uniquement dans les pays où il n'y a pas trop de décalage horaire. Donc typiquement, je crois, l'Afrique du Sud.
Oui. Tu vois, là, je pense que le but, c'est de garder la confiance avant la Coupe du Monde. Et clairement, aller jouer l'Afrique du Sud, c'est se prendre des branlées.
Donc,
c'était plus sûr de jouer le Japon, tu vois.
On les joue pas en novembre.
Oui, mais en novembre, c'est eux qui sont fatigués.
Ah,
c'est
oui.
Eux qui sont en
forme.
Enfin, quoique, bah, maintenant qu'ils jouent la Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est peut-être différent.
Après, la deuxième, quand même, deuxième avantage de la tournée d'été, c'est que ça permet de tester des joueurs, tu vois, qui vont avoir une sélection, et après comme ça, nous, on peut faire des tops dans nos livres, genre le top des joueurs qui ont eu une
ça,
sélection
vrai,
avec des noms dont personne ne se souvient.
Comme Yohan Tanga.
Comme Yohan Tanga.
Mais moi, c'est-à-dire la tournée d'été, je suis contre. Bon.
T'es contre.
T'es contre l'équipe de France. Déjà.
Oui. Non, mais voilà. Mais bon, c'est, je vous avoue que cet été un peu moins, puisqu'il y a quand même un joueur de Saint-Claude qui est Enzo Rebier. Qui fait partie de la liste, vous savez pas qui c'est normal, il joue au Yona.
Avoue que t'as inventé.
Enzo Rebier, non, Enzo Rebier, qui a joué à Saint-Claude et qui a été shippé par Oyonnax. Oyonnax, je suis contre aussi.
Shipper, hein, c'est shippé.
qui a été shippé par Oyonnax à un âge très précoce, ce qui fait qu'il n'a pas eu vraiment la chance de porter le maillot ciel et blanc, mais celui de Saint-Claude, le cool.
Après, tu vois, s'il faut faire du remplissage, avant, quand il y avait ce genre de tournée, on envoyait l'équipe B, et clairement, elle était à chier. Et maintenant, on a une bonne équipe B, en fait. Donc, on a quand même gagné un match en Australie l'année dernière. Là, le Japon, bah.
Et puis, même les deux autres matchs étaient quand même pas.
Oui, ils ont fait gagner trois fois quasiment. Ouais.
Globalement, on envoie des joueurs au casse-pipe, il y a quand même eu des gros souvenirs de matchs absolument dégueulasses. Je crois qu'il y a un match en Argentine où ils ont même pas mis un point, je crois. Il y a quelques années, 5-6 ans.
Oui, mais il y a 5-6 ans, il y a beaucoup d'équipes qui ont mettait pas un point, et y compris en plein mois de février, si tu veux.
Ah oui, d'accord, en équipe de France.
Donc forcément, mais... comme disait Riwan, là, en vrai, on a une équipe B, tu vois, qui tient la route, et c'est quand même plutôt agréable. Ce qui est dommage là, c'est qu'on joue contre l'équipe B.
Le Japon aujourd'hui, c'est pas le Japon d'il y a 3 ans. Donc
c'est ça. Là, c'est l'équipe B, donc.
Maxime Lucu, il rentre à la 75e et il fait 3 coups de pied dans la boîte. Là il peut jouer 80 minutes et il fait 26 coups de pied dans la boîte. c'est bien qu'il puisse s'exprimer.
Non, mais en vrai, on avait une belle équipe. La troisième ligne, t'as Olivon, Crétin, Yohan Tanga.
Quand tu vois Movaca, c'est pas vraiment remplaçant, tu vois. Il est quasiment du niveau de Marc.
Bah, même Lucu Gélibert, tu vois, c'est quand même pas dégueulasse. C'est un charnière B.
Moefana, oui, c'est incroyable.
Pas loin de Piocelli, je pense. Vakatawa, quand même pas non plus.
Vakatawa, il a l'air nul maintenant. C'est dire à quel point on est fort.
Oui, c'est vrai que à l'époque, c'était quand même le Messi, quoi. On va terminer cet épisode avec un petit jeu. Puisqu'on en a parlé justement pas mal. Vous allez chacun à votre tour me citer un joueur qui effectue la tournée au Japon actuellement. Et je laisse l'honneur à Riwan qui nous a fait une magnifique biographie d'un de ses joueurs.
C'est le joueur qui nous a dit genre j'avais une idée de jeu, je vais vous dire des noms de japonais, il faudra me dire si c'est un vrai joueur ou pas.
J'ai dit ça. J'avais totalement.
Et du coup j'ai révisé le nom des joueurs japonais en me disant il faut que je sois au courant un peu tu vois de qui jouer parce que.
Allez bah, on fera un petit jeu bonus, je vais ouvrir tout de suite une page Wikipédia des joueurs japonais et on va faire ça. Bien, donc un joueur qui effectue la tournée au Japon, c'est parti Riwan.
Je vais citer celui qu'on oublie toujours, Dylan Crétin.
Crétin, oui, c'est une bonne réponse.
Je me suis dit justement que le Japon va plus le voir parce que. Mais non, pas du tout.
Bastien.
Bah Vakatawa,
Riwan.
Moefana.
Bah bon, ça va parce que vous dites ce dont on a parlé, mais après, Bastien.
Penaud.
Oui, Riwan.
Ah putain, j'aurais dû dire un truc sur lui, Thomas Jolmes.
Bastien.
Mathis Lebel.
C'est une bonne réponse, Riwan.
Bah Damien Penaud.
Il l'a dit. Aïe. Allez, dis-en un autre, vas-y, pour te la péter.
Jaminet,
Malvin.
Movaca.
Peato.
Falatea.
Falatea.
Est-ce que tu connais la belle histoire?
Vas-y, dis-la moi.
Falatea, c'est l'oncle de Moefana.
C'est pas vrai.
Alors qu'ils ont 3 ans d'écart.
C'est la première fois en équipe de France qu'un joueur joue avec son oncle.
C'est pas vrai.
Si.
C'est pas vrai.
C'est inintéressant à mourir. Mais oui, d'accord. Très bien. Et il y en a un qui est maçon dans l'histoire ou pas?
Non. Ben alors, je sais plus si je les ai dit, mais Jalibert.
Jalibert, oui. Et when?
Bah Olivon.
Bon, sinon, un petit mec qui s'appelle Dorion.
Aldeguerri.
Bien sûr, Demba. On a aussi le joueur de Pau qu'on n'avait pas le droit de dire tout à l'heure dans ton petit jeu.
Un joueur de Astoy.
Astoy.
Il y en a d'autres qu'on n'a pas dit, non?
Oui, il y a Thibaut Flamand, Jules Favre.
Et il n'y a pas genre Brice Dulin, il n'a pas pris Brice Dulin.
Je crois qu'il avait un tournage. Il ne pouvait pas être là. Il a pris Mathis Perchaud par contre. Rémi Piquette. On dirait vraiment le nom d'un homme orchestre. Et Johan Tanga, vous ne l'avez pas dit?
Ah oui,
alors qu'il joue,
je l'ai dit 4 fois, ça suffit.
Mais du coup, il y a plein de gens qui ne vont pas jouer là, ils ont changé toute l'équipe, non? Pour que sinon les gens...
Non, il y a juste Spring qui remplace Jaminet, sinon c'est la même équipe.
Ah oui, donc il y a vraiment des mecs qui sont pas dans le groupe et genre qui n'ont pas joué un seul match.
C'est ça, ouais, juste ils visitent le Japon. Ouais, c'est quoi qu'ils disaient déjà?
Entre tradition et modernité.
Et tout, là, au pied du Mont Fuji.
Au pied du Mont Fuji, avec cette société si responsable et si respectueuse, contrairement à la France. On va jouer au jeu magnifique de « Est-ce que c'est un joueur japonais ou pas ?»
Je sais pas si c'est disponible sur YouTube ou ailleurs, mais à la Coupe du Monde 2003, il y a un France-Japon. Et Pierre Salviac, qui était encore là à l'époque, il s'était mis en tête de prononcer tous les noms japonais avec l'intonation japonaise. Donc à chaque fois qu'il y en avait un qui avait le ballon, il disait « Nakamura !» comme ça. Et évidemment, c'était horrible et c'était un peu raciste. Et si ça existe, il y a eu des plaintes.
Oui, Pierre Salviac taclé par les téléspectateurs. Pierre Salviac a dû donner des explications à l'antenne. Ses plaisanteries aux dépens des rugbymen japonais lors du match Écosse-Japon du 12 octobre lui avait valu une levée de bouclier du côté des services téléspectateurs. En prenant l'accent japonais pendant tout un match, joue-t-il à Thierry Roland Bis? Écrivait l'un d'eux. Un premier joueur, ou pas? Rohei Yamanaka. R-Y-O-H-E-I.
Oui.
Oui. Et oui, c'est un arrière de 34 ans qui joue au Kobelco Kobe Steelers.
Ah, c'est pas ceux du match, putain.
Il jouait le match.
Non. Alors, est-ce qu'il jouait le match?
Je crois, ouais. Il a fait quelques percées,
oui,
non?
Exactement. Ouais. Il a fait quelques percées. On passe désormais à Une autre personne, Hiroyuki Sanada.
Non, c'est un acteur, ça.
Oh, vous êtes fort.
Il est très beau.
Incroyable. Je l'aime beaucoup.
S'il y a un mec que je veux baiser, c'est lui.
Il est notamment connu en France en tant que héros du tokusatsu Sankukai, diffusé à la fin des années 70, et dans le monde en tant que héros du film...
Le dernier samouraï.
Ring. Ah, ok. Il ne met pas le dernier samouraï.
Et c'est un moment où il est ennemi avec Tom Cruise à la fin.
Oui, c'est vrai. Aux côtés de Tom Cruise, son compatriote.
Parce que personne ne peut être vraiment ennemi avec Tom Cruise.
On passe à un autre exemple, s'il vous plaît. Fusajiro Yamauchi.
Ça me dit rien.
Non plus.
Non, c'est normal, c'est le fondateur de Nintendo. Voilà. On a aussi Craig Millar.
Non.
C'est pas un mec qui écrit des comics.
Craig Millar, c'est un pilier du Japon.
Ah ouais, ouais. Mais il n'a pas joué
tout
en tout cas.
Fait.
Cette année.
Cette année, première sélection en 2021. Et trois sélections pour 0 points marqués. Qui est-ce qu'on peut avoir aussi? Ah, Hayashi Yoshiki.
Yoshiki, ça me dit rien, mais c'était un remplaçant.
Ça me dit rien non plus. Je dirais que non. Mais...
Non. Et en effet, vous êtes fort, vous êtes très très fort. C'est un musicien. Il joue du piano comme
Yonatan Gar.
De la batterie et de la guitare. Bravo à lui. Vous pouvez être fier de lui.
On l'embrasse.
On l'embrasse, il nous écoute. Et enfin, on va terminer avec Lee Seung-sin.
Oui, c'était le numéro 10.
C'était le numéro 10.
Bravo! Oh là là.
D'origine coréenne, comme l'indique son nom.
Exactement. Eh bien, écoutez, cet épisode touche à sa fin. Et puis, bah, peut-être un prochain épisode, on verra bien, peut-être à la rentrée. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir été là.
Merci pour d'avoir préparé cette émission.
Et puis, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!
Merci à Yuan Tanga qui nous a fait le générique au piano.
Oui.
Oh, eh, oh, eh.
Bosse au vali, bosse au vali.
Oh, eh, oh.